Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
La main de serviette en cuir noir. Les six hommes se dirigent vers l'entrée de l'hôtel. Ils entrent dans l'hôtel. Hors d'entrée, une femme, grande, mince, cheveux châtains, habillée d'une robe de laine marron, va vers eux. Vous désirez, messieurs ? Un des hommes s'avance vers elle. Elle lui dit, « Bonjour madame, nous avons commandé 6 chambres pour le groupe Le Monde Meilleur. » Elle lui dit, « Oh oui, monsieur, c'est la première fois qu'un groupe vient chez moi. J'accepte parce que c'est hors saison. Depuis que je tiens cet hôtel, il se passe tellement de choses bizarres. Des gens étranges viennent chez moi et pour la plupart, ils disparaissent. C'est pour cela que je demande de payer à l'avance. On ne sait jamais. » L'homme lui dit, « Bien sûr, madame, c'est très naturel. » Il tend sa carte. Il paye pour tout le monde. « N'oubliez pas, madame, c'est les chambres pour nos chauffeurs. Merci. » Elle va à son comptoir et met la carte sur l'écran. Il lui dit, « Je paye pour tout le monde. » Elle lui dit, « Oui, oui. » Elle voit que c'est une association. «
Vous êtes une association ?»«
Oui. »«
J'aime pas beaucoup ça. »
L'homme lui dit, « Elle fait partie d'un groupe, voyez. » »«
Oui, je vois. »
Elle lui tend la carte et lui dit,
« Bien, je vais vous mener à vos chambres. Veuillez me suivre. »
Et la suivre. Elle les mène à l'étage. Leur dit,
« Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est propre. »
Arrivé à l'étage, elle leur montre leurs 9 chambres.
Voici,
meublées façon chalet.
Cela vous convient-il ?
Oui, madame.
Elle lui dit, le petit déjeuner dans la chambre, à quelle heure ?
9h sera parfait.
Elle lui dit, le repas à la salle à manger est à 12h30 et 20h. Bien, je vais vous laisser.
Elle les laisse dans le couloir. Un homme grand demande au responsable, « Et où sont leurs chambres ?» Le responsable lui dit, « C'est une des chambres qu'on nous a données, mais nous ne savons pas, et c'est si loin qu'on ne se souvient pas. Même celui d'en haut s'en souvient plus. Allez, dans n'importe quelle chambre. Et après, on se retrouve dans le hall, disons, dans 1 heure, le temps de ranger ses affaires et de se reposer. » Et chacun va dans sa chambre, au hasard.
Une heure plus tard, ils descendent tous dans le hall.
Flordy, allons faire le tour au lac.
et ils sortent de l'hôtel.
Et ils marchent autour du lac. Le chef leur dit, je vous ai fait venir, c'est parce que le temps presse. La situation se dégrade de plus en plus, de jour en jour, dans le monde occidental. Il faut accélérer les choses. L'un des hommes lui demande. Le chef lui dit, tout d'abord recherchez le dossier PMDN43. Un homme lui dit, mais comment le chercher? Vous savez très bien qu'il a disparu. Le chef lui dit, il est peut-être dans la maison Pontois, caché, oublié. L'homme lui dit, son fils était contre, il l'a peut-être détruit. Le chef lui dit, je ne le crois pas, comment jeune tout aurait-il pu faire pour qu'il arrive à ce qu'il est arrivé? L'homme lui dit, il avait son cerveau. Le chef lui dit, il avait peut-être son cerveau, mais le cerveau gardait son autonomie. Et pour toi, mort ou vivant, n'aurait rien dit. Non, il le possédait peut-être. À moins que ce soit la femme ou la fille. Va voir de leur côté. L'homme lui dit, nous pourrons agir sans. Le chef lui dit, oui, bien sûr, mais ce sera plus long. Ça aurait été plus simple. Ça nous aurait bien aidé. Et il continue la marche le long du lac. Le chef leur dit, et dire que c'est là que tout a commencé. C'est cette eau qui nous a permis d'être ici. Les hommes ont besoin de nous pour les guider, et nous avons besoin de l'élu pour être guidés. Ça fait des décennies que nous n'avons plus. Le chef lui dit, nous avons toujours eu son fluide, même si nous n'avons pas l'élu. Il faudra le surveiller de près. L'ADN ne doit pas se perdre, parce qu'autrement, il n'y a plus de fluide. La chose à faire, c'est accélérer. Et prendre les commandes de tout. Centraliser les informations et sélectionner les hommes. Toute personne qui nous empêche d'aller de l'avant, la supprimer. Ce soir, nous reviendrons ici. Rentrons et réfléchissons au travail que nous avons à faire. Et ils s'en retournent. Thank you. Le soir, à la nuit tombée, ils sont sortis. Font le tour du lac, ils s'éloignent de l'hôtel. Puis, une fois bien éloignés de l'hôtel, le chef prend une bouteille de verre ciselé et plusieurs soleils en or. Il se penche et la remplit d'eau. Dit à ses disciples, ce lieu est un lieu de pèlerinage, un lieu sacré pour nous tous. Chaque homme sort des gobelets en or et le chef leur verse de l'eau. Ils boivent. Puis le chef ferme la bouteille et s'en retourne au chalet. Le lendemain, dans la matinée, ils s'en vont. L'hôtesse leur dit, vous ne restez pas longtemps. Le chef leur dit, nous avons beaucoup à faire. Et ils sortent de l'hôtel. Ils vont à leur voiture, entrent dans leur voiture. Ils s'en vont. Ils s'en retournent pour Lyon. Les jours passent. Gilbert en a assez de la vie qu'il mène. Vivre dans cette grande maison qui est à lui sans être à lui, les projets de son père qui lui dit que plus tard il devra s'occuper de ceci ou cela. Il dit à Julien un soir qu'il passe la soirée chez lui au salon. J'aimerais, c'est plus tard, c'est avoir une vie tranquille, comme avant, avec tous mes projets, vivre au milieu de livres, de gens que j'aime, mais pas être dans le monde des affaires,
Je ne m'intéresse pas. Julien lui dit, il n'y a qu'à vivre comme tu l'entends. Gilbert lui dit, mon père ne voudra jamais. Il sera toujours après moi pour me l'empêcher. Et pars, quitte tout. Pour aller où? Sans mes parents, je n'ai rien. Et puis il y a Nathalie. Jamais sa mère ne voudra que l'on parte ensemble. Je ne peux pas la laisser. Julien lui dit, eh bien, explique, aie une explication avec ton père pour lui dire ce que tu aimerais faire. Tu crois que c'est facile avec lui? Le lendemain, il va dîner chez ses parents. Sur le portail.
Oui,
c'est moi.
Entrez, monsieur.
Il entre dans la cour, longe la cour pour aller sonner à la maison. Le domestique lui ouvre, il entre.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Mes parents sont où?
Au petit salon monsieur.
Bien, j'y vais. Et il monte à l'étage. Au premier étage, il frappe à la porte du petit salon.
Entrez,
dit sa mère. Il entre. Ses parents sont assis dans leur fauteuil. Il va vers eux. Bonsoir, mère.
Bonsoir, Gilbert.
Il s'embrasse. Bonsoir, père.
Bonsoir, Gilbert.
Il s'embrasse. Sa mère lui dit,
assieds-toi.
Il va s'asseoir en face d'eux.
Le dîner n'est pas encore servi.
Son père lui demande, tu veux boire quelque chose? Il lui répond, oui, je veux bien, pamplemousse. Sa mère appuie sur la sonnette et lui demande,
tu vas bien?
Oui, mère, un peu fatiguée. Et puis, j'en ai un peu marre de tout ça. Frappe à la porte.
Entrez.
C'est le domestique, elle dit.
Un pamplemousse.
Elle demande à son mari.
Tu veux quelque chose?
Un scotch.
Elle dit.
Un pamplemousse et un scotch.
Bien, madame. Et le domestique se retire. Le père dit à son fils.
Il faut changer les idées. Voyager un peu. Tiens. Tu pourrais aller à ma place. À Mouloulou. Voir un de mes amis qui veut monter avec moi un centre de loisirs.
Gilbert fait la grimace. Sa mère lui demande,
qui est-ce?
Il lui dit, c'est le PDG Disney. Il veut faire un centre de loisirs en Inde, après en Chine. La mère lui dit,
décidément, le monde entier va être envahi par Disney.
Frappe à la porte.
Entrez.
C'est le domestique qui vient avec les boissons. Il va les poser sur la table basse qui est en face d'eux et les sert.
Merci.
Merci.
Puis, il s'en retourne. Après avoir bu une gorgée, le père dit
« Je le laisse prendre son envol. Après, je lui coupe les ailes. À force de trop en vouloir, il va s'endetter à fond et je serai là pour le racheter. »
Gilbert lui dit « Tu te dis son ami ?» Maurice lui dit
« Oui, mais pas pour les affaires. Disney marche sur les plates-bandes. Il rénove lui aussi les villes et crée de nouvelles villes. Je veux être le seul à le faire. D'ailleurs, ce n'est pas son affaire. Qu'il reste dans les dessins animés, moi je n'y toucherai pas. »
Frappe à la porte.
Entrez!
La bonne leur dit. Madame, le dîner est servi. La mère dit.
Bien, merci, nous arrivons.
Terminent leur verre et se lèvent, puis sortent du salon pour aller à la salle à manger.
Ils vont s'asseoir à table.
Gilbert se met en face de ses parents. On leur sert le potage.
Une fois que la chose est faite, la domestique sort.
Le père demande à son fils,
tu veux y aller à ma place?
Gilbert lui dit,
je ne crois pas.
Je puisse le faire, j'y connais rien.
Son père lui dit,
je te passerai les dossiers, tu les liras, de toute façon tu pars que dans 15 jours avec mon avion privé. Alors
Gilbert lui dit, à vrai dire ça ne me dit rien et je ne me vois pas me occuper de ces affaires. Non, je veux une vie simple et tranquille.
Le père soupire et lui dit,
qu'est-ce que tu crois? Que moi, je peux avoir une vie simple et tranquille? Non. Et si vous vivez comme vous vivez, c'est parce que j'ai pas une vie simple et tranquille, moi. Alors, lorsque je te demande un service, tu pourrais bien le faire. Non.
La bonne entre pour changer les assiettes.
Plat, un canard au vin. Une fois qu'elle est servie, elle se retire.
Thank you.
père lui dit, tu crois que nous ayons tout ça en ayant une vie tranquille? Hein? À lire et à rêvasser. Moi, je me lève sur patin à 5 heures pour étudier les dossiers. Je travaille 7 jours sur 7. Tu te crois que je n'aimerais pas être tranquille chez moi à rêvasser? Hubert lui dit, qui t'en empêche? Père lui dit, petit con, si j'arrête, cela fait des milliers de gens qui sont sans travail. Et toi, sans ressources, là, tu seras bien obligé c'est de faire quelque chose d'utile pour vivre. Alors, si je te demande de l'aide, c'est normal, parce que je te fais vivre. Et ne crois pas que ça va durer comme ça longtemps. Si je vois que tu feignantes et que tu risques de dilapider l'héritage que je vais te laisser, je te déshérite. Hubert lui dit, je m'en fiche. Tu peux me déshériter, cela ne me gêne pas. Vos histoires ne m'intéressent pas. Je veux être heureux. Et en vivant d'amour et d'eau fraîche, tu vas te retrouver très vite à la rue. Tu sais ce que l'on fait aux gens qui traînent dans les rues. On te retrouvera une semaine plus tard, si on a de la chance, de te retrouver mort, triplé de bandes. À notre époque, où tu es au-dessus, où tu es à la rue. Mais la vie pépère, c'est fini. C'est la guerre, une guerre mondiale, économique et sociale. Le gagnant aura tout et les autres rien. Ou c'est l'Amérique ou la France, mais pas les deux. Et la France peut gagner sans moi, sans nous. Alors toi et tes états d'âme, ta vie pépère, si tu n'acceptes pas de me succéder, tu mets à la rue, c'est-à-dire à la mort, des millions de personnes et tu fais perdre la guerre à la France.
Je ne crois pas à tout ça. Nous ne sommes que des maçons.
Son père lui dit, nous sommes un groupe, le groupe peut-être le plus puissant du monde. Nous allons avoir les marchés mondiaux de l'alimentation, avec la biotech, de la médecine, les ordinateurs, l'informatique, etc., etc. Les maisons, ce n'est rien, mais le reste, c'est tout. J'ai le groupe Pontoise Genetou. Nous sommes très puissants.
Gilbert lui dit, peut-être, mais ça ne nous rend pas plus heureux.
Son père lui dit, espèce d'idiot, sans moi, tu ne serais rien.
Gilbert hausse les épaules. Son père fait le geste de le gifler.
Intervient. Elle leur dit, arrêtez de vous disputer. Ton fils a en partie raison. En tout cas, pour ça, nous étions plus heureux. Et personne ne nous voulait du mal. Maintenant, nous n'avons plus de vrais amis. On ne nous fréquente que par intérêt. Moi aussi, je regrette le temps où nous n'avions pas tout ça.
Ton mari ouvre ses épaules et lui dit, mais si tu veux, tu peux vivre simplement. Achète moins de robes et prends-les aux Galeries Lafayette. Vends tes bijoux. Achète plus de manteaux de fourrure. Ne va plus au coiffeur tous les 2 jours. Ne fais plus de soirée.
Elle lui dit, tu es ridicule.
Il lui dit,
oh bien, toi aussi, tu aimes ta vie luxueuse.
Elle lui dit, tu mélanges tout. Je te dis que nous étions plus heureux sans tout ça, c'est-à-dire les contraintes.
Il lui dit,
sans les contraintes, pour tout ça, tout se paye dans la vie, ma petite. Tes soirées, c'est moi qui les paye, comme tout le reste. Alors, vous pouvez bien vous sacrifier un peu, vous aussi. Toi, ma femme, en ayant des obligations mondaines, et toi, mon fils, en m'aidant à mon travail. Pourquoi n'y aurait-il que moi qui me tuerais au travail et se sacrifierais? Je suis un être humain, moi aussi. J'ai besoin de calme, de vie heureuse, de faire ce que je veux. Mais je ne le peux pas.
Gilbert lui demande, Il lui répond,
parce que je suis comme un chef d'État, un roi, qui ont des devoirs plus que des plaisirs. Et si le chef d'État ou le roi s'occupe plus de ses plaisirs que ses devoirs, son peuple, le pays, en partie, c'est une question d'honneur.
Gilbert lui dit, moi je ne suis pas le roi, donc je suis libre de penser à moi.
Maurice lui dit, tu n'es pas le roi, mais tu es l'héritier, le futur roi. Tu as aussi des devoirs. Ton devoir est de te préparer à prendre ma place. Des milliers de personnes comptent sur toi. Parce qu'ils savent que sans toi, tout est fini. Il n'y aura plus de groupe. Si tu refuses la succession, ce sera la fin pour eux.
Dit, le groupe sera racheté?
Ton père lui dit, oui, par les Américains. Et adieu la France. Alors,
Gilbert baisse la tête. Le silence. Puis il dit, bon, je veux bien aller à ta place.
Son père lui dit, non, tu n'iras pas. Parce qu'on ne va pas traiter un contrat en y allant comme si c'était une corvée. Faut y aller pour gagner et être sûr de soi, pas par devoir ou être contraint d'y aller. C'est moi qui irai.
Gilbert ne dit rien, sa mère non plus. Après le repas, Gilbert a quitté ses parents, le cafard, qui lui dit qu'il ne sera jamais heureux et que son devoir est d'aider son père. Les jours passent.
Matin, quand Charlotte est seule au salon. Entrez. Entre. Domestique pour lui apporter une lettre. Voici, madame.
Merci.
Et la domestique s'en va. Une fois qu'elle est sortie de la pièce, elle ouvre l'enveloppe. C'est une lettre qui lui dit, votre fils n'est pas votre fils. Si vous voulez en savoir plus, une voiture viendra vous prendre en bas de chez vous cet après-midi, jeudi à 15h. Elle soupire. Puis la lettre, la remet dans son enveloppe et la met dans sa poche et se dit,
encore un maître chanteur, il n'aura rien, je devrais en parler à Maurice. Et puis non, à quoi bon le troubler, les hommes sont suffisamment inquiets pour ces choses. Ils ne savent jamais, d'une façon sûre, qui sont le père. Laissons-le tranquille. Nous verrons plus tard.
15h, elle se prépare pour sortir. Elle dit à sa bonne, « Je vais sortir, j'ai affaire. » Elle regarde à la fenêtre de sa chambre.
Elle a vu une voiture noire s'arrêter en bas de chez elle. Elle se dit,
ce doit être eux.
Elle prend son sac à main et sort de la chambre. Traverse sa petite cour, ouvre le portail. Une fois dehors, elle va vers la voiture. Un chauffeur habillé en chauffeur ouvre la porte arrière. Elle s'y engouffre et voit qu'il n'y a personne d'autre. Le chauffeur ferme la porte et entre lui aussi dans la voiture. Puis, il met la voiture en route. Demande
où allons-nous?
Le chauffeur ne lui dit rien. Elle lui dit,
vous pourriez au moins me répondre. J'accepte de partir avec vous tout de même, mais vous me faites chanter pour des choses fausses.
Le chauffeur ne lui dit rien. Elle lui dit,
j'espère que nous serons à temps pour le début de soirée. Ce ne sera pas trop long. Parce que moi, je dois rentrer.
Elle ne lui dit rien. Elle se tait. Et la voiture roule, roule. Dans les rues de Paris. Puis, la voiture prend le périphérique et sort de Paris. La voiture roule, roule, roule. Il n'y a pas de circulation. Elle soupire. Elle se demande si elle a bien fait de partir comme ça. On va peut-être l'enlever, la séquestrer. Même la tuer. Elle aurait peut-être mieux fait, c'est d'appeler la police. Maintenant c'est trop tard. Elle est enfermée dans cette prison de métal qui roule à plus de 100. La campagne défile. La voiture, après un long moment de route, quitte la route principale pour prendre une petite route. Elle est étroite, entre deux rangées d'arbres. La route dépasse un petit village entouré de coteaux boisés.
Elle continue sa route. Puis, la petite route, d'un coup, en pleine campagne, devient un chemin qui mène à un coteau où se trouve un petit cimetière de campagne. Arrêtez la voiture devant l'entrée du cimetière. Il sort de voiture et ouvre la portière. Elle sort. Étourdie, l'air pur la surprend. Elle lui dit :
Nous sommes enfin arrivés.
Oui.
Elle lui dit : Oh ! Vous parlez enfin.
Il lui dit : Veuillez me suivre, madame. Elle le suit. Ils vont vers l'entrée du cimetière. À l'entrée se trouve la maison, petite maison du garde. Le cimetière est un petit cimetière de campagne, tout simple, avec certaines tombes assez anciennes. Le chauffeur l'amène le long d'une travée. Il n'y a personne dans le cimetière. Au bout de la travée, il lui dit : C'est ici. Elle lui dit :
Quoi ?
Elle voit une tombe toute simple, avec une pierre tombale sans inscription. On voit que la tombe est déjà un peu ancienne, mais tout de même entretenue. Elle demande :
Qui est-ce ?
Il ne répond pas. Elle lui dit :
Vous avez fait faire tout ce trajet pour me montrer une tombe sans nom. Faites juste des explications. Parlez !
Il lui dit : Je ne peux rien dire. Je suis comme vous. On m'a seulement dit de vous mener ici. Je ne sais rien. Je suis comme vous.
Elle lui dit : Eh bien, menez-moi chez ceux qui vous ont donné cet ordre.
Il lui dit : Je n'en ai pas le droit.
Elle lui dit : Eh bien, rentrons. Je déteste qu'on me prenne pour une imbécile.
Elle soupire et s'en retourne. Elle lui dit :
Vous direz à vos plaisantins que leurs farces sont de mauvais goût.
Ils arrivent à la sortie du cimetière. Elle voit la maison du garde, lui dit :
Attendez, je vais me renseigner.
Et elle va sonner à la porte de la maison du garde. La porte s'ouvre. C'est le garde, habillé en garde, costume vert et casquette. Il est petit, maigre, cheveux blancs. Vous désirez ?
Elle lui dit : Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Mais j'aimerais savoir qui est enterré dans la tombe, qui est au bout de la travée là-bas, et qui n'a pas de nom.
L'homme lui dit : Je ne peux pas vous répondre, madame. Je ne sais pas moi-même.
Elle lui dit : Vous ne savez rien du tout. Pourtant, il faut bien que quelqu'un paye l'emplacement.
Il lui dit : Oui. Et la famille qu'il paye ne veut pas qu'on le divulgue son nom.
Et il demande : Pourquoi ?
et lui dit « C'est une famille soi-disant illustre. » « Je ne peux rien vous dire de plus, madame. Mais peut-être, est-ce que vous-même, est-ce que vous posez des questions, vous cherchez quelqu'un ?»
Elle lui dit « Non, merci. Au revoir, monsieur. »
« Madame. » Et il entre chez lui. Elle retourne vers le chauffeur et lui dit
« Non plus, mais c'est rien du tout. Rentrons, il se fait tard. »
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.